France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, ce lundi de Pâques chocolaté, on s'intéresse à la santé de vos dents, que vous soyez grand ou petit. Soignez les caries, les abcès, la maladie parodontale. Nous verrons comment prévenir toutes ces pathologies, quelles sont les conséquences de ces pathologies dentaires sur notre santé, diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, problèmes digestifs. Bref, nous vous aiderons ce matin à reprendre votre santé bucco-dentaire en main. Toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France où vous pouvez laisser messages et notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Votre dentiste, monsieur le directeur.
Bonjour, monsieur Duchemin. Vous êtes sûr que c'était prévu pour aujourd'hui?
Monsieur Duchemin, vous n'êtes pas mon client le plus facile, vous savez.
Et vous ne pouvez pas revenir demain parce qu'aujourd'hui je me sens...
Monsieur Duchemin, je suis venu avec mon appareil.
Vous avez vraiment besoin de tout ça, vous?
Oh. Ouvrez la bouche, monsieur Duchemin.
La bouche? La bouche.
Extrait de l'aile ou la cuisse de Claude Zidi. Bonjour professeur Vianney Descroix.
Bonjour Ali.
Vous êtes chirurgien dentiste, doyen de l'UFR d'odontologie de l'université Paris-Cité, c'est bien ça?
C'est exactement.
Et vous exercez à l'hôpital
de la Pitié-Salpêtrière.
Bonjour professeur Violaine Smaïl Faugeron.
Bonjour.
Vous êtes professeur en odontologie pédiatrique à l'université Paris-Cité et à l'hôpital Bretonneau. Vous prenez en charge notamment certaines populations pédiatriques comme les tout-petits et les enfants anxieux ou atteints de handicap, c'est bien ça?
Tout à fait.
Bonjour docteur Gérard Dupéra.
Bonjour.
Vous êtes stomatologue, chirurgien maxillofacial et vous publiez au courrier du livre « Toutes mes dents jusqu'à 102 ans, t'es sérieux ?» Rappelez-nous ce qu'est la stomatologie.
La stomatologie, en fait, c'est une spécialité de médecine. Le nom stomatologue, ça vient de l'embryologie, ça vient du stomodéum, où quand vous avez un embryon, vous avez différentes zones donc, qui ont une appellation particulière. Et le stomodéum, c'est la bouche.
D'accord.
D'où la notion de stomatologie, voilà.
Avec nous également le professeur Boris Ancel, bonjour.
Bonjour.
Sa chronique Quoi de neuf docteur et Thierry Lhermitte, ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale. Bonjour Thierry.
Bonjour Ali.
Alors première question pour bien comprendre les douleurs et les infections dentaires. Quelle est la structure d'une dent et des gencives? Ça tombe sur vous.
Alors une dent, c'est déjà constitué d'émail. C'est ce qu'on voit en fait en première dans la bouche. La chose blanche hein, qu'on aperçoit qui est dure. Et puis dessous, il y a la dentine. Et dans cette dentine, en fait, il y a des espèces de tubuli qui vont arriver jusqu'à la pulpe. Et c'est dans la pulpe qu'est contenu le nerf, notamment de la dent et les vaisseaux. Et c'est pour ça que quand la carie atteint la pulpe, on peut avoir mal. Ce qui n'est pas forcément le cas chez les enfants. Parce que la pulpe chez les enfants est un tissu très lâche. Donc ça veut dire qu'un enfant peut avoir une carie même profonde sans forcément avoir mal. C'est pour ça que c'est très important de bien regarder la bouche des enfants.
Tiens, expliquez-nous comment se forme une carie.
Eh bien, une carie, c'est des bactéries et du sucre, globalement. Donc ça veut dire que si on n'a pas de sucre, a priori, on n'aura pas de carie.
Et que se passe-t-il concrètement au niveau de la dent quand et une bah, carie apparaît?
Les bactéries et le sucre, ça va grignoter l'émail progressivement, puis atteindre la dentine. Et à cause de ces tubuli, ces tubules, hein, ces espèces de tunnels en fait, qui amènent jusqu'à la pulpe, et ben c'est là où en fait, il va y avoir les infections qui vont commencer vraiment à se propager et après qui vont pouvoir atteindre la gencive. Et c'est là où on peut apercevoir les fameux abcès, les petits boutons blancs ou rouges qui commencent à ce moment-là potentiellement à faire mal.
Alors avant d'éventuellement conserver toutes ses dents jusqu'à 102 ans, il faut commencer peut-être par l'éducation bucco-dentaire dès la maternelle. Où en est la prévention bucco-dentaire chez les enfants, professeur Violaine Smaïl Faugeron?
C'est même avant la maternelle. Hein. Ouais. C'est dès que la première dent arrive. Alors il y a le fameux programme MT dents que je pense tout le monde connaît parce qu'on reçoit dans sa boîte aux lettres un courrier là-dessus qui commence à 3 ans. Mais en fait, dès la première dent, il faut déjà prendre soin de sa dent, de la dent qui arrive dans la bouche. globalement, en France, la prévention est relativement bien faite, hein, avec tous ces programmes. Maintenant, nous, on se bat aussi pour, dès qu'on voit des femmes enceintes ou des petits frères, des petites sœurs, de dire vraiment, n'attendez pas 3 ans, justement, et allez-y avant, chez le dentiste.
Et quelles sont les recommandations fondamentales en matière de prévention bucco-dentaire chez les enfants ?
Eh bien, de brosser les dents, pas à partir de 3 ans, mais justement dès que la première dent arrive dans la bouche, et même avant. Même avant, on peut entraîner l'enfant en fait, avec son doigt, avec une compresse, avec de l'eau dessus, avant même que les dents arrivent, à frotter les gencives pour déjà habituer l'enfant, et puis pour créer en fait, un environnement favorable après à la bonne hygiène bucco-dentaire.
Et parmi les préventions, il y a évidemment effectuer une visite annuelle chez le dentiste, éviter le grignotage entre les repas, les sucreries, préférer l'eau à toute autre boisson, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas tant que ça.
Tout à fait, ouais. Notamment dans les biberons. Hein. Y en a, on retrouve parfois des biberons de coca ou des biberons de grenadine.
Vous le voyez vraiment, ça ?
Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Il faut vraiment insister sur que ce soit de l'eau pure, de l'eau sans sirop. Parce que souvent, quand on pose la question, est-ce qu'il boit de l'eau ? Oui, oui. Et puis quand on dit, mais est-ce qu'il y a autre chose que de l'eau dans l'eau ? Ah bah oui, je mets du sirop. Donc il faut faire très attention à ça aussi. Attention aussi au lait. Tout lait nature est naturellement sucré. Attention aussi à tout ça. Donc, bien sûr qu'un bébé doit être nourri au lait et au sein, hein, par exemple, de manière continue. Dès que la première dent arrive, il faut en fait structurer l'allaitement ou le biberon et les donner uniquement au moment des repas et non pas en continu comme c'est le cas quand c'est un nourrisson.
Et puis, il faut se brosser les dents au moins 2 fois par jour avec un dentifrice fluoré ayant une teneur en fluor adaptée à l'âge, c'est ça ?
Tout à fait.
Expliquez-nous l'importance du fluor dans le dentifrice. Pourquoi est-ce si important ?
Le fluor, ça a de l'importance parce que ça renforce cet émail. Ça fait comme un espèce de bouclier. Cependant, ce n'est pas du tout l'élément crucial du brossage. Mmh. L'élément crucial du brossage, c'est l'action mécanique qu'on va y apporter. Donc en fait, moi je préfère 1000 fois qu'on se brosse les dents 2 ou 3 minutes, même sans dentifrice à la limite au début, plutôt que d'y ajouter le dentifrice. Vraiment, il faut vraiment comprendre que c'est pas l'élément le plus important de l'affaire.
Ah, c'est étonnant ça.
Ouais, c'est important, mais ce n'est vraiment pas la chose la plus importante. Si on se brosse les dents avec dentifrice 30 secondes, ça ne servira pas à grand chose.
Et quelles sont les règles à respecter pour un brossage efficace et les erreurs à éviter ?
Eh ben, il faut se brosser au moins 2 minutes, entre 2 et 3 minutes. Il faut forcément qu'un adulte repasse ou le fasse, au moins jusqu'à l'âge de 8 ans. Hein, un enfant n'est pas forcément... Alors, il faut qu'il le fasse tout seul, hein, c'est très bien pour son autonomie, c'est très bien qu'il apprenne, mais il faut forcément que quelqu'un repasse derrière. Il faut évidemment que chaque personne ait sa propre brosse à dents.
Ça paraît évident.
Bah oui, mais ce n'est pas forcément le cas dans une fratrie. Des fois, on a une brosse pour tous les enfants et les bactéries, en fait, se transmettent hein, de personne à personne. Donc, il faut vraiment avoir une brosse à dents par personne. Il faut la changer au rythme des saisons, tous les 3 mois. Il faut le faire, on dit, à peu près 30 minutes après un repas pour éviter justement d'étaler en fait, le sucre et la nourriture. Voilà, donc il faut avoir un petit temps, un délai, hein, pas le faire directement après le repas. Il faut le faire tous les jours.
Donc, docteur Gérard Dupérin, conserver ses dents jusqu'à 102 ans pour reprendre le titre de votre livre, ça commence dès la crèche, en fait.
Ah, ça commence dès la crèche. Après, le problème, c'est d'arriver à 102 ans.
Oui.
En fait, c'est ça. C'est ça la vraie question.
Alors, on l'oublie souvent, mais les dents et les gencives vieillissent.
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr, il y a une modification de vascularisation, de la microvascularisation, une modification de la texture en fibre de collagène.
Est-ce qu'il y a un âge bascule ? Est-ce qu'il y a un moment où, là, vraiment, les dents et les gencives vieillissent à vitesse grand V ?
Si on veut être, ce que je n'aime pas trop, parce que la médecine, c'est tout sauf mathématiques, mais si on veut être un petit peu statistique, c'est vrai qu'il y a des périodes, pour la femme, ça va être la grossesse, qui engendre parfois des complications. Pour l'homme, ça va être évidemment l'andropause, et pour la femme, la ménopause. En sachant qu'on part du principe qu'on commence à avoir le début des inconvénients de l'âge, tenez-vous bien, à partir de l'âge de 30-32 ans, où la courbe commence à très légèrement s'inverser. Alors jusqu'à 40-50 ans, en faisant du sport, en faisant attention, en faisant tout ça, on ne s'en rend pas compte. Mais en réalité, il y a quand même déjà des modifications. Il n'y a pas un âge particulier à partir duquel ça commence à ne plus aller du tout.
Professeur Vianney-Descroix ?
Oui, je crois que c'est vraiment important aussi de prendre conscience que la santé orale, la santé de la bouche, est une santé qui est extrêmement simple à prévenir et à entretenir. C'est-à-dire que c'est une hygiène du quotidien, qui est une hygiène qui est d'abord agréable, qui est fondamentale et qui, encore une fois, peut se prévenir de façon correcte avec une bonne alimentation, avec une bonne hygiène de vie, avec effectivement une hygiène orale qui se fait au quotidien. Et vraiment, c'est important de rappeler à tous nos auditeurs que cette santé orale, c'est la mère de toutes les santé. On le reverra peut-être tout à l'heure. On ne peut pas être en bonne santé si on n'a pas une bonne santé orale. Et que contrairement à beaucoup d'autres organes, on peut atteindre la bouche, on peut la regarder, on peut la voir. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette santé orale, qu'elle est complètement accessible au quotidien.
On verra ça tout à l'heure. Professeur Boris Ancel, au menu de votre chronique, quoi neuf docteur ?
Écoutez, les beaux jours approchent. Il est temps de se poser la question de savoir quels sont les vrais aliments brûle-graisse. On répondra à cette question.
Ça existe ?
Ça existe, mais on va quand même nuancer les propos.
Preuve scientifique à l'appui, évidemment. Thierry Lhermitte, quel laboratoire de recherche avez-vous visité au nom de la Fondation pour la Recherche Médicale ?
L'unité Santé Internationale de la Mère et de l'Enfant. Et je vais vous parler de l'influence de la pollution de l'air sur l'asthme.
Allez, réveillez.
Mais là, je ne comprends rien du tout, monsieur.
Moi, j'ai compris.
Grand bien vous fasse.
Il dit qu'il a deux dents au fond qui lui font très très mal. C'était possible de lui arracher.
Sur France Inter. Et nous attendons ce matin toutes vos questions sur la santé bucco-dentaire, 01 45 24 7000. Avec nous, les professeurs Vianney-Descroix, Violaine Smaïl-Faugeron et le docteur Gérard Dupéra. Alors, avoir de belles dents, ce n'est pas qu'une question esthétique. Les dents sont essentielles à notre bonne santé globale. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut avoir un impact sur notre santé. Le site de la Fondation pour la Recherche Médicale indique que plusieurs études scientifiques ont mis au jour l'existence d'un lien entre une mauvaise santé bucco-dentaire et le risque accru de maladies cardiovasculaires. Cette mauvaise santé bucco-dentaire favorise en effet l'athérosclérose et augmente donc le risque d'infarctus du myocarde et d'accidents vasculaires cérébraux. Professeur Vianney-Descroix, c'est assez inquiétant.
C'est à la fois assez inquiétant et puis c'est rassurant parce que c'est facile d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Donc, je l'ai redit tout à l'heure, il n'y a pas de bonne santé sans une santé orale correcte. Lorsque vous avez des problèmes d'hygiène bucco-dentaire, de maladies chroniques dans la bouche, vous avez en continu à la fois des infections, une inflammation qui est chronique et que cette inflammation chronique va avoir des répercussions sur le reste du corps.
Quel est le lien avec les maladies cardiovasculaires ?
Par exemple, cette inflammation, encore une fois, elle va passer dans le sang, et une fois qu'elle est dans le sang, elle va atteindre les autres organes. On le sait très bien avec les maladies cardiovasculaires, on le sait très bien avec le diabète, par exemple. Il y a beaucoup de patients qui sont atteints de diabète de type 2, notamment. On ne peut pas réguler correctement son diabète si on n'a pas une bonne hygiène orale. Et le système est dans les deux sens, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une bonne santé orale si vous avez un diabète qui est déséquilibré, et vous ne pouvez pas avoir un diabète équilibré si vous n'avez pas une bonne santé orale.
Et des liens ont été identifiés entre cette santé bucco-dentaire et la polyarthrite rhumatoïde, certains cancers, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la maladie d'Alzheimer, mais également il y a aussi un risque d'accouchement prématuré, docteur Gérard Dupéra ?
Oui, absolument, parce qu'en fait, la bouche est un des organes, à part le cœur bien évidemment, qui est parmi les plus vascularisés dans l'organisme. Donc en fait, tout ce qui est bactéries crée ce qu'on appelle des bactériémies, c'est-à-dire que les bactéries diffusent dans la totalité du corps, avec les bactéries, les toxines, l'augmentation des cytokines qui vont se fixer sur ce que l'on appelle des organes cibles. C'est-à-dire que ce sont des organes qui soit étaient légèrement affaiblis par le passé, que ce soit le cœur, que ce soit l'œil, que ce soit les reins, que ce soit n'importe quel organe, tous les organes sont concernés. Et à partir du moment où il y a fixation de ces bactéries, de ces toxines, il y a soit création d'une pathologie, ce qui est relativement rare, sincèrement, mais en général, c'est une aggravation. Et pour en revenir à cette notion d'infection focale, c'est comme ça qu'on les appelle, qui est extrêmement importante, elles sont apparues il y a très longtemps dans une seule spécialité, c'était la spécialité de chirurgie orthopédique, c'est-à-dire que chaque fois qu'il devait y avoir une prothèse de hanche, une prothèse de genou qui devait être posée, on demandait systématiquement un chirurgien dentiste ou un stomato, d'examiner une radio panoramique, voire plus, un scanner, faire un examen clinique et s'assurer qu'il n'y avait pas la moindre, j'insiste bien, pas le moindre potentiel infectieux. C'est-à-dire, c'est même pas une infection, le moindre potentiel infectieux.
Rassurez peut-être nos auditrices et auditeurs, professeur Vianney Descroix.
C'est rassurant parce qu'encore une fois, quand on a une bonne hygiène bucco-dentaire, les choses sont assez simples. Vous voyez, quand vous avez un bon brossage, une alimentation qui est équilibrée, que vous limitez votre quantité de sucre, les choses sont encore une fois assez faciles à maîtriser et à contrôler. Et une bonne hygiène bucco-dentaire, c'est assez simple. Et dans l'hygiène, il y a évidemment la nutrition et puis il y a deux facteurs auxquels on ne parle pas assez, c'est le tabac et l'alcool, qui sont les deux facteurs de risque de cancers qui sont terribles, qui sont les cancers de la bouche. Il y a dans la bouche, notamment au niveau de la langue, des cancers qui peuvent être absolument foudroyants. Et il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça.
Sur les cancers buccaux, docteur Gérard Dupérat.
Oui, les cancers buccaux, comme vous dites, ils sont gravissimes parce qu'en fait, ce sont des cancers qui ont très peu tendance à métastaser. Mais par contre, ce sont des cancers, que ce soit des cancers maxillaires, des cancers de langue, qui récidivent relativement rapidement après des résections linguales ou des résections osseuses extrêmement importantes. Donc on arrive au bout de quelques récidives, je ne veux pas être pessimiste, mais on arrive à garder les patients en vie, mais avec des délabrements au niveau du visage qui sont relativement importants.
Et il existe des liens entre une infection dentaire et la survenue de certains cancers ?
Bien sûr, au niveau local, bien sûr, et même, je dirais même au niveau général, parce que, comme vous le disiez, si le microbiote buccal, par défaut d'hygiène, est totalement déséquilibré, il y a une incidence sur l'immunité, que ce soit par le biais des cytokines ou que ce soit par le biais...
Rappelez ce que sont les cytokines.
Les cytokines, en fait, sont des substances qui sont sécrétées par les cellules immunitaires et qui permettent, en fait, d'avoir un espèce de langage entre les différentes cellules. Et lorsqu'il y a un déséquilibre, vous pouvez avoir une augmentation anormale de la multiplication cellulaire, et par définition, c'est ça le cancer.
Professeur Boris Ancel.
Oui, juste, peut-être on peut rappeler, sauf si je me trompe, que les principales causes de ces cancers bucco-dentaires, c'est d'abord alcool et tabac. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on imagine que c'est uniquement mauvaise hygiène bucco-dentaire.
Non, c'est cancer et tabac, effectivement. Il y a certains cancers, on le pense aujourd'hui, qui sont induits par un virus, l'HPV, qui a des cancers aussi au niveau de la muqueuse génitale, mais on peut en trouver dans la bouche aussi, et qu'effectivement... Là aussi, c'est intéressant de se dire, s'il y a moins de tabac, s'il y a moins d'alcool, il y a aussi beaucoup moins de cancer de la bouche.
Une question de Marc qui nous demande s'il est normal de saigner quand il se brosse les dents. Et est-ce que le saignement peut être le signe d'une maladie parodontale ?
Il n'est jamais normal de saigner, quel que soit l'organe du reste. Et donc effectivement, là aussi, c'est un des points de la santé orale. Si vos gencives saignent, c'est qu'il y a un problème. Généralement, c'est qu'il y a une accumulation de tartre, c'est-à-dire qu'il y a une hygiène qui n'a pas été suffisamment bonne. Il faut voir son chirurgien dentiste. Là aussi, c'est important de redire aux éditeurs, il n'y a pas de symptômes dans la bouche qui vont passer tout seuls. S'il y a déjà des symptômes, de la douleur, des saignements, c'est qu'il faut consulter son chirurgien dentiste.
Et professeur Violaine Smaïl-Faugeron, si un enfant saigne souvent quand il se brosse les dents, c'est le signe de quoi ?
Pareil, qu'il peut y avoir une accumulation de plaques, et c'est aussi peut-être que les dents poussent, parce que chez les enfants, les dents peuvent pousser ou tomber. Voilà, donc c'est pas forcément quelque chose de très grave non plus.
Énormément de questions sur la maladie parodontale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, professeur Vianney Descroix, ce qu'est la maladie parodontale ? Et des questions annexes sur le fait que ces soins soient si mal remboursés par la Sécurité sociale. Expliquez-nous ce qu'est une maladie parodontale.
Alors, très simplement, dans la bouche, il n'y a pas que des dents. Il y a évidemment les dents, il y a la langue, il y a les joues, et puis il y a ce qui est autour des dents, qu'on appelle la gencive ou le parodonte. Maladie parodontale, ça vient de ce parodonte. Ce parodonte, c'est la gencive, et puis c'est l'os qui tient les dents. La maladie parodontale, au départ, ça commence par une gingivite qu'on a tous connue, c'est-à-dire une inflammation de la gencive qui fait mal et qui saigne parce qu'il y a une accumulation de plaques ou de tartre. Et que si ça devient chronique, eh bien cette inflammation, donc cette réaction du corps aux bactéries, va se mettre à s'attaquer à la gencive et à l'os. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir des mobilités dentaires, voire des pertes dentaires.
Et selon selon la Haute Autorité de Santé, les maladies parodontales touchent 10 à 20% des Français.
Oui, c'est au bas mot, il y a même des chiffres qui disent qu'un Français sur deux souffre de maladies parodontales. Donc il faut bien comprendre que c'est cette maladie parodontale qui va avoir des répercussions sur tous les autres organes du corps. C'est parce qu'on a une maladie inflammatoire chronique des gencives que l'on a des maladies cardiaques, des maladies cardiovasculaires, des maladies articulaires, qu'on a du mal à réguler le diabète. Si vous faites du diabète plus une inflammation de la gencive, c'est là où la maladie parodontale prend tout son sens.
Mais pourquoi la Sécurité sociale rembourse aussi mal les maladies parodontales alors qu'elles peuvent, vous le dites, se révéler graves si elles ne sont pas soignées? Et beaucoup de Françaises et de Français ne se soignent pas en raison du coût de ces maladies.
Alors on a effectivement en France un problème par rapport à ces questions-là qui vont en amont de ça, c'est-à-dire sur des questions du coût de la prévention. C'est-à-dire qu'effectivement, on ferait mieux de rembourser beaucoup plus la prévention puisqu'on peut prévenir les maladies parodontales, on peut prévenir les maladies des gencives et qu'effectivement, le traitement d'une maladie parodontale est un traitement qui est coûteux, qui est un traitement qui est important. Il ne faut pas laisser croire qu'on soigne facilement une maladie parodontale. Une maladie parodontale demande un certain nombre de soins qui sont eux-mêmes coûteux et qu'effectivement, l'assurance maladie les prend mal en charge.
Comment ça se prévient, une maladie parodontale? Quelle est la prévention?
Avec une bonne hygiène bucco-dentaire.
On y revient.
Toujours la même chose, avec une bonne alimentation, sans tabac, sans alcool, qui sont des facteurs là aussi de risque de maladie parodontale, avec une bonne hygiène, avec des examens bucco-dentaires au moins 2 fois par an quand on est un adulte, et effectivement, dès les premiers signaux d'alarme, de consulter son chirurgien dentiste.
Docteur Gérard Dupéra, elles surviennent vers quel âge, ces maladies parodontales?
Elles peuvent débuter à l'âge de 25-30 ans, facilement. Et pour revenir à la question que vous avez posée du mauvais remboursement, à mon sens, et je ne veux pas du tout rentrer dans une polémique quelconque, mais c'est un problème de politique de santé. C'est-à-dire que c'est évident qu'il faudrait axer davantage encore sur la prévention. Bien sûr, comme ça a été dit tout à l'heure, la prévention elle est nettement meilleure aujourd'hui, mais quand on regarde les pays du Nord, la Finlande, la Suède, et qu'on regarde la France, on a encore vachement de boulot à faire, si je peux m'exprimer ainsi.
Et nous accueillons Elisabeth. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour.
Vous appelez Doche dans le Gers.
Oui.
Quelle est votre question?
Alors, ma question est plutôt une remarque. J'étais donc assistante dentaire et je m'aperçois, mais depuis de nombreuses années, que lorsque le hasard fait que je parle de ça, même dans une parapharmacie, quand j'entends des personnes qui demandent à une vendeuse qui ne savait pas trop d'ailleurs, qu'en général, les personnes ne savent pas réellement comment brosser leurs dents afin de ne pas justement être atteintes de toutes ces maladies parodontales. La brosse souple, tout ça, ils découvrent, c'est quand même incroyable qu'en général, je ne dis pas tous, les chirurgiens dentistes n'expliquent pas ça à leurs patients. Voilà.
Vous, professeur Violaine Smaïl-Faugeron, je rappelle que vous êtes professeur en odontologie pédiatrique, vous apprenez aux tout-petits à se brosser les dents.
Aux tout-petits et surtout aux parents.
Et aux parents, bien évidemment.
Oui, tout à fait. Et elle a complètement raison de rappeler ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, qu'il faut absolument une brosse à dents souple et pour tout le monde, y compris pour les adultes.
Pourtant, très souvent, dans les supermarchés, on voit des brosses dures en vente. C'est une aberration?
C'est une aberration. Ou alors, on prend ces brosses dures pour brosser d'éventuels appareils qu'on a dans la bouche, mais que pour les appareils. Même les médiums sont déjà des poils qui sont beaucoup trop durs et beaucoup trop agressifs pour la gencive.
Donc il faut choisir des brosses souples ou extra souples. Alors comment bien se brosser les dents? Alors quel est le principe de base? Parce que Elisabeth le constate, nous autres adultes, on ne sait pas suffisamment bien se les brosser.
Il y a plusieurs techniques et puis après il y a aussi les brosses à dents électriques qui existent et qui sont aussi très bien. Les techniques les plus simples qu'on apprend, c'est aux enfants du rouge vers le blanc en méthode de rouleau. Donc ça c'est assez simple à faire, de la gencive vers la dent,
c'est
du rouge vers le blanc.
Excusez-moi d'intervenir, c'est juste impossible à faire. C'est-à-dire que aller dans la bouche, toujours... Enfin, pas du haut vers le bas, qu'on sait pour la mâchoire, et l'autre pour les mandibules du bas vers le haut, c'est impossible.
Alors,
à
l'autre
faire.
Technique pour les gens qui trouvent ça impossible, c'est faire des petits rouleaux.
Voilà.
Les petits rouleaux, ça fonctionne aussi très bien. Ce qui est très important, en fait, c'est de ne pas brosser uniquement l'émail, mais de brosser bien un peu la gencive, justement. C'est surtout ça aussi la clé. C'est pas juste de brosser le truc blanc. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on dit du rouge vers le blanc, c'est qu'on veut vraiment avoir ce truc de se dire il faut brosser un peu la gencive.
Ça vous va, la technique des petits rouleaux, Thierry Vermis ?
Oui. Et moi, je voudrais poser une question quand même, de savoir, est-ce que c'est vrai qu'on peut faire repousser les dents en mâchant de l'ail cru et du curcuma. Bon, j'ai lu ça sur Internet. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai. Qu'on voit des choses complètement absurdes. Non, mais il rit à moitié parce que c'est des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux.
Non, maintenant, on s'entraîne quand même à faire. Il y a des laboratoires qui réellement essaient de faire repousser des dents.
Oui, je sais.
Ça, oui. Alors après, pas avec de l'ail.
L'ail et du curcuma.
Mais...
Non.
Ah,
ils ont peut-être les deux ensemble. Ouais. Moi, j'ai essayé. Ça donne une haleine épouvantable et la bouche toute rouge.
Alors,
mais ça m'a pas fait repousser les dents.
Mais l'ail, c'est très bon pour la santé.
Oui. Plus sérieusement, pourquoi continue-t-on à faire des caries, même en observant une bonne hygiène bucco-dentaire ? Qui veut répondre à cette question ? Comment ça se fait qu'on a beau se brosser les dents deux fois par jour ?
Parce qu'en fait, les caries, c'est bactéries et sucre.
D'accord.
Donc tant qu'on a un apport de sucre, et j'en profite aussi pour dire quelque chose qui est, je pense, très important, c'est que les jus de fruits, même sans sucre ajouté, sont bourrés de sucre et sans vitamines. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument plutôt préférer manger un fruit plutôt que de prendre un verre entier de jus d'orange où en fait dans ce verre-là on va avoir 4 ou 5 oranges sans vitamines puisque toutes les vitamines sont déjà parties.
Docteur Gérard Dupéra, qu'est-ce qu'un abcès ? Pourquoi se forme-t-il ? Et que faire en cas de douleur trop vive ? Et surtout les choses à ne pas faire quand on a un abcès. C'est quoi un abcès d'abord ?
En fait un abcès c'est une infection locale qui fait suite soit à une infection parodontale, donc de l'os alvéolaire ou de la gencive, ou alors de l'extrémité de la racine d'une dent. À partir du moment où on commence à avoir des petites infections, il faut savoir que les bactéries commencent à coloniser la zone et commencent à grignoter un petit peu de l'os. Donc on peut parfaitement avoir ce que l'on appelle un granulome à l'extrémité de la racine. Ça évolue, ça grossit, ça devient un kyste. Et à partir de là, on fait des abcès à répétition. Le risque, on en revient toujours au même, c'est le risque d'infection focale en dehors de la douleur locale. Et donc le risque qu'il y ait des altérations sur des organes cibles, que ce soit le cœur, que ce soit... C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est très simple, il faut aller consulter... Encore une fois, soit un chirurgien dentiste, soit un stomato, et comme type de traitement, si c'est réellement débutant, ce sont des soins tout à fait simples, traditionnels à faire, et si la lésion a évolué, soit il faut faire un traitement par voie endodontique, c'est-à-dire par l'intérieur de la racine, et ça ce sont des praticiens qui sont très équipés pour faire ce type de traitement, et on peut avoir suppression de la lésion granulomateuse ou de la lésion cristallisée jusqu'à un certain point. Et si on a dépassé ce seuil, à ce moment-là, ça devient chirurgical et on fait une résection apicale.
En cas d'abcès, on peut être tenté de percer son abcès avec une aiguille. C'est pas une très bonne idée.
C'est pas génial, mais quand on souffle le martyr, comme j'ai vu certains patients, c'est moins stupide à partir du moment où on se met sous couverture antibiotique que de souffrir en permanence. Mais en attendant, c'est toujours pareil, en attendant d'aller consulter. Hein. Ça, c'est pas le traitement avec la petite aiguille.
Professeur Vianney-Descroix, Mathilde nous demande pourquoi ses dents commencent à se déchausser.
Ah ben... Il faut prendre de l'ail et du curcuma.
On plaisante évidemment. Plus sérieusement.
Ce qu'on appelle le déchaussement, c'est une gencive qui s'affaisse. Y a plusieurs raisons. La première raison, c'est la maladie parodontale qui va faire que les dents se déchaussent. Après, on peut avoir une fragilité de la gencive qui, avec le temps, va elle aussi avoir tendance à se rétracter. Puis on va voir apparaître le début des racines. Je pense que là, il faut vraiment avoir un avis spécialisé par un chirurgien dentiste.
Plusieurs questions qui vont dans le même sens. Faut-il enlever systématiquement les dents de sagesse, professeur Violaine Smaïd-Faugeron ?
Non, pas du tout. Ça dépend vraiment des problèmes ou non, d'ailleurs, orthodontiques que l'on a. Donc des mâchoires, est-ce qu'elles s'engrènent bien ? Est-ce qu'on a, on a ce qu'on appelle les encombrements, donc des dents qui se chevauchent ? Donc ça, il faut consulter pour le coup un orthodontiste, un spécialiste de l'orthodontie. Mais non, les dents de sagesse peuvent servir et il ne faut pas du tout les enlever systématiquement.
Pourquoi
elles peuvent servir les dents de sagesse ? Excusez-moi, je
suis sûr. Par exemple, si on est amené à un moment donné à avoir une dent à enlever parce qu'on a une trop grosse infection, la dent de sagesse peut nous servir d'appui pour faire une prothèse, par exemple. Donc c'est pas du tout à enlever systématiquement.
Question de Karim, peut-on se passer du détartrage? D'ailleurs, qu'est-ce que le tartre? Comment se forme-t-il, professeur Vianney-Descroix?
Alors on ne peut pas se passer du détartrage, et que même lorsqu'on a une très bonne hygiène, il y a des formations de tartre qui se font.
Il y a beaucoup de questions dans ce sens-là. J'ai une très bonne hygiène bucco-dentaire et j'ai du tartre.
Oui, oui, parce que en fait, en fonction de la composition de la salive, en fonction de son alimentation, le tartre, c'est vraiment des cristaux hein, de calcaire qui se forment plutôt spécifiquement à l'endroit où il y a les glandes salivaires, c'est-à-dire au niveau des molaires maxillaires, au niveau de la langue et des dents mandibulaires. C'est des cristaux donc, qui se forment et qui ne peuvent pas s'enlever autrement qu'avec l'intervention d'un chirurgien dentiste et d'un détartrage.
Quel est le risque si on ne détartre jamais ses dents?
Eh bien, que vous ayez quelque chose qui fasse une inflammation chronique, en fait une irritation chronique des gencives, donc ça va faire mal, ça va saigner, ça peut aussi entraîner une mauvaise haleine, hein, qui est là aussi un facteur péjoratif, et que donc ce n'est pas physiologique, hein, c'est comme pour la machine à laver le linge, il faut détartrer à un moment ou à un autre, c'est obligatoire.
Dans quel cas doit-on impérativement dévitaliser une dent? Et ça sert à quoi de dévitaliser une dent?
Alors, dévitaliser une dent, c'est un mot qui est un peu commun, mais c'est enlever le nerf et les vaisseaux qu'il y a à l'intérieur de la dent, c'est-à-dire cette partie de la dent qui est vraiment vivante et qui peut faire mal. Et on est amené à dévitaliser les dents lorsque l'infection de la dent, la carie est trop profonde, qu'il y a trop de douleur, qu'il y a une infection qui est à l'intérieur de la dent. Et là, le chirurgien dentiste va procéder à enlever le tissu vasculaire et le tissu nerveux de la dent.
Et docteur Gérard Dupéra, dans quel cas le dentiste ou le stomato est-il obligé d'extraire une dent? Quels sont les cas qui...
Bah, je dirais...
C'est jamais de gaieté de cœur, j'imagine.
Oui, voilà, c'est ça. Mais... C'est quand on ne peut pas faire autrement. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a, schématiquement, il y a deux cas de figure. Soit c'est suite à un choc, souvent d'origine sportive, soit par un accident, soit par une agression, et vous avez la racine qui est fracturée à l'intérieur de l'os, donc c'est complètement irrécupérable, donc là c'est l'extraction. Et puis l'autre possibilité, en dehors des problèmes de mobilité extrêmement importante dedans, suite à des problèmes parodontaux, où là on ne peut pas conserver les dents, même en faisant des greffes osseuses, ça ne marche pas à partir d'un certain seuil. Le dernier cas, c'est lorsque votre dent est terriblement délabrée. Donc quand c'est récupérable et qu'on ne peut pas mettre faire des techniques de prothèse.
Vous parlez d'hygiène, enfin de mauvaise haleine. Est-ce que c'est un indicateur d'une mauvaise santé bucco-dentaire?
Alors oui, très souvent, mais pas que. Ça peut être aussi une mauvaise santé gastro-intestinale qui fait qu'on a mauvaise haleine. Si on a mangé trop d'ail et du curcuma, on a une très mauvaise haleine aussi.
Oui, c'est sûr que là...
Mais oui, la première chose à laquelle il faut penser quand on a mauvaise haleine, c'est à son hygiène bucco-dentaire, c'est à des infections qu'on n'a pas vues, c'est un problème de gencive, avant d'aller chercher des causes peut-être plus gênantes comme des causes gastro-intestinales.
Professeur Gérard Dupéra, c'est une question pour vous de Madia, qui habite en Charente. Pourquoi les dentistes, les stomatos ne parlent pas forcément de la langue? Elle se brosse aussi, point d'exclamation.
Je vais être très clair là-dessus. Sur
on
TikTok...
On entend tout et son contraire le brossage de la langue.
Ouais. Sur TikTok et sur plein d'autres trucs, je m'insurge contre le brossage de la langue.
Pourquoi ?
Est-ce que je suis contre à 100% le brossage de la langue? C'est totalement faux. Le problème, en fait, c'est savoir comment on se la brosse. Quand on parle de nettoyer... Est-ce qu'on est obligé de nettoyer la langue? Pour moi, non, parce qu'on a un truc qui est fabuleux qui s'appelle la salive et qui est un liquide merveilleux qui nettoie absolument tout. Se nettoyer la langue, c'est pas du tout absurde. Après, le problème, c'est savoir comment on se la nettoie. C'est comme comment est-ce qu'on se brosse les dents. Les trois quarts des patients, et moi le premier qui suis un très mauvais patient, dans les zones postérieures, c'est ce que disait Thierry Lhermitte tout à l'heure, pour aller faire un mouvement normal, qu'est-ce qu'on fait? On fait un mouvement horizontal. Et le mouvement horizontal, il contribue en fait à esquinter la gencive plus qu'à... à nettoyer la dent, bien sûr, mais on esquinte la gencive aussi.
Tiens, un dernier conseil peut-être aux parents qui nous écoutent en ce lundi de Pâques, professeur Violaine Smail-Faugeron, dernier conseil pédago pour les parents qui écoutent.
Un dernier conseil pédago, brossez-vous les dents avec vos enfants, parce que c'est par imitation qu'ils le feront aussi. Et je pense que c'est vraiment un moment qui doit être partagé pour que ce soit au final un bon moment et pas vécu comme quelque chose de contraignant.
Allez, il est l'heure de retrouver la chronique Quoi de neuf docteur de Boris Ancel.
Oh, quoi ça me le fait, là ?
Grand bien vous fasse.
Qu'est-ce que j'ai, docteur ? Je vous en prie, dites-le-moi.
Ali Rebéi.
J'ai pensé à la tuberculose, moi, c'est ridicule.
Quoi de neuf, docteur ?
Sur France Inter.
Alors, professeur Boris Ancel, il y aurait de vrais aliments brûle-graisse, selon la science.
Ah oui, il existe des aliments qui feraient fondre les graisses juste en les mangeant. On entend dire qu'ils boostent le métabolisme, qu'ils déclenchent la combustion des graisses. Voilà pourquoi on les appelle les aliments brûle-graisse. Et le plus fou, c'est que ces aliments existent vraiment.
Je vais écouter votre chronique avec beaucoup d'attention. Mais est-ce qu'on peut y croire ou pas, ces aliments qui font brûler les graisses ?
Alors, certains aliments contiennent effectivement des molécules actives qui peuvent, dans certaines conditions, augmenter la dépense énergétique, la dépense de calories. Mais dans la vraie vie, celle de mes patients, la vôtre, il faut bien dire que ces effets sont légers et souvent, on en surestime largement l'impact. On va prendre trois champions des brûle-graisses. D'abord, le piment. Vous aimez ça, Thierry. Il contient de la capsaïcine, une molécule connue pour stimuler la thermogenèse, c'est-à-dire la production de chaleur par le corps qui fait légèrement grimper la dépense calorique. Une synthèse scientifique publiée dans la revue Appetite a confirmé que si on consomme tous les jours 5 à 10 mg de capsaïcine, on peut brûler 50 calories de plus par jour. Alors pour y parvenir en pratique, il faut manger environ un piment chili rouge fort par jour. Alors,
et après, on va chez le gastro-entérologue, après. Hein.
Ça paraît séduisant, mais effectivement, il faut le supporter sur le plan gastrique. Et en pratique, si vous tenez ce rythme pendant un an, vous perdrez environ 2 kilos. Bon, à condition, on l'a dit, de manger de ce piment tous les jours. Et bien sûr, le jour où vous arrêtez, l'effet disparaît, on reprend les kilos.
Et un estomac dans un sacré état. Et l'ananas, on lit partout que c'est un brûle-graisse naturel.
Alors là, c'est l'un des plus grands malentendus de l'histoire des aliments brûle-graisse, en tout cas. L'ananas contient de la bromélaïne, une enzyme qui réduit l'accumulation des graisses dans le corps chez l'animal. Aucune étude n'a montré qu'elle faisait fondre les graisses chez l'humain. Un autre brûle-graisse classique, c'est le thé vert. Alors, il est vrai qu'il est riche en catéchine et il contient aussi de la caféine. Et ces deux composés peuvent stimuler légèrement la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation des graisses. Et quand on les associe, bien la caféine, les catéchines du thé vert avec la capsaïcine et un peu de tyrosine, on observe un petit effet sur le métabolisme. Une étude publiée dans International Journal of Obesity en 2007 montre que cette combinaison augmente la dépense énergétique et elle entraîne une légère perte de poids, allez, 900 grammes. Bon, attention, on parle là de compléments concentrés, pris à des doses précises, pas d'une ou deux tasses de thé vert avec un petit peu de piment et un petit peu de café. Hein.
Donc si je comprends bien, Boris, on ne peut pas espérer maigrir juste en ajoutant ces aliments à son assiette.
Non seulement on ne peut pas, mais en s'acharnant à y croire, on perd une chance de vraiment agir. À force de miser sur ces aliments miracles brûle-graisse, certains de mes patients passent des mois, voire des années à espérer, sans jamais s'attaquer au vrai problème. Et c'est ça la vraie perte. Perte de temps, perte d'énergie, parfois même perte de motivation. Parce qu'on finit par se dire que rien ne fonctionne. Alors mon conseil, mangez du piment si vous aimez ça. Croquez de l'ananas, buvez du thé vert, ce sont de bons aliments. Mais n'attendez rien d'eux pour régler vos problèmes de poids. Vous pouvez retrouver bien sûr les références de cette chronique tout à fait sérieuse sur le site de France Inter.
Et brossez-vous les dents après avoir mangé tout ça. Merci beaucoup Boris Ancel. On retrouve tous les épisodes de vos chroniques sur l'appli Radio France donc, et les vidéos sur les réseaux sociaux de France Inter. Et on retrouve tout de suite la chronique de Thierry Lhermitte de la Fondation pour la Recherche Médicale. Alors, mon cher Thierry, vous avez visité l'unité Santé internationale de la mère et de l'enfant, Mérite, sur le site de la faculté de pharmacie de l'Université Paris-Cité. Alors, c'est un laboratoire de recherche dont certaines équipes mènent des travaux pour comprendre les effets de l'environnement sur la santé, à la fois en France et dans les pays du Sud, car il est aussi implanté au Bénin, au Ghana et au Sénégal.
Et oui, j'ai rencontré toute l'unité, et en particulier Richard Laloux, qui est chargé de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Il mène un projet pour évaluer un dispositif en médecine comportementale qui vise à améliorer la santé des adolescents asthmatiques au Bénin en les protégeant de la pollution de l'air. Ce projet international inclut 10 équipes basées au Bénin, en France
et au Canada, aux compétences complémentaires, il y a des pneumologues allergologues, des chimistes de l'environnement, des biologistes, des épidémiologistes, etc.
Et la pollution de l'air est un problème très important en Afrique.
Et oui, les pays à revenus faibles ou intermédiaires sont de très loin les plus pollués. L'OMS estime aujourd'hui que 40% de la pollution de la population mondiale, dont une grande partie en Afrique, est soumise à des niveaux de pollution très préjudiciables pour la santé, avec à la clé entre 7 et 8 millions de décès par an, notamment en cas de maladies respiratoires, cardiovasculaires ou de cancer. Et dans cette pollution de l'air, on retrouve à la fois des molécules chimiques, comme les oxydes d'azote, l'ozone ou le dioxyde de soufre, mais aussi ces fameuses particules fines de quelques microns qui pénètrent profondément dans les poumons et jusque dans le sang.
Et au Bénin, d'où provient cette pollution ?
Eh bien, à la fois de l'air extérieur et intérieur. La principale source, c'est la combustion résidentielle via les foyers ouverts utilisés pour la cuisine. Il y a aussi les industries de production d'énergie, le trafic routier, le brûlage à ciel ouvert de déchets de végétaux, de plastique, de matériaux électroniques, en gros, quand ils dépolluent ce qu'on leur envoie. Mmh. Et le changement climatique aggrave le problème avec des tempêtes de sable plus fréquentes, la forte chaleur qui favorise la formation d'ozone et allonge la période des pollens.
D'où des enjeux de santé publique croissants concernant l'air. Une maladie reliée à la pollution de l'air et potentiellement sévère.
Et oui, c'est la première maladie chronique chez l'enfant partout sur la planète. Cette affection altère la qualité de vie et peut même être mortelle quand elle est mal prise en charge. La pollution de l'air joue un rôle majeur car elle favorise l'apparition de l'asthme chez les personnes génétiquement susceptibles et aggrave la fréquence et la gravité des crises. En Afrique, il y a 44 millions de personnes asthmatiques, dont 3 millions d'enfants de moins de 15 ans. Un grand nombre de médicaments ne sont pas disponibles ou pas accessibles aux populations, et chaque année, l'asthme y cause plus de 50 000 décès.
Et donc, Richard Laloux voudrait mettre en place une politique de prévention efficace auprès des jeunes.
Oui, avec le consortium de chercheurs dont j'ai parlé, l'idée est d'abord d'évaluer une stratégie de prévention à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Avec l'aide du médecin et des médicaments disponibles, chaque asthmatique doit apprendre à moins s'exposer aux pics de pollution de l'air pour éviter que ceci ne déclenche des crises. En 2022, l'équipe a fait un dépistage dans 25 collèges de la ville et constitué une cohorte de 730 adolescents asthmatiques qui font l'objet de suivi médical depuis 3 ans. Et en parallèle, la pollution est mesurée grâce à des capteurs répartis dans la ville, le long des axes routiers, aux abords des collèges et aussi via des capteurs portés par certains de ces jeunes. L'objectif, c'est de comprendre comment l'influence de la pollution de l'air sur les symptômes de l'asthme et de définir un seuil d'alerte adapté aux personnes vulnérables.
Et une fois ce seuil d'alerte défini, que comptent faire les chercheurs ?
Ils vont déployer un dispositif de prévention et évaluer s'il est accepté par les adolescents asthmatiques et bénéfique pour leur santé. Cet essai commencera à la fin de l'année et durera 15 mois.
Et ça se passera comment ?
Voilà, parmi les 730 adolescents inclus, 250 suivront ce programme. Ils seront alertés pour les périodes de pic de pollution de l'air et auront des recommandations personnalisées pour adopter des comportements de protection, comme le port du masque par exemple, de manière à diminuer leur exposition à la pollution. Et les autres participants auront uniquement le suivi médical habituel. Les résultats de cette étude arriveront en 2028 et ce qu'espère l'équipe, c'est de montrer que ce dispositif diminue l'asthme sévère et améliore la qualité de vie des adolescents malades. Et l'étude espère aussi prouver que le dispositif sera plus efficace s'il cible les adolescents asthmatiques qui ont une grande sensibilité biologique à la pollution de l'air. Vous avez compris que ce projet répond à un enjeu de santé publique majeur et pourra aussi influencer les choix stratégiques de la lutte contre l'asthme en France et dans les pays à revenus élevés.
C'est absolument passionnant, Thierry Lhermitte. Alors, comment aider la Fondation pour la recherche médicale, la FRM ?
Et bien sûr, frm.org, on peut faire un don en envoyant le SMS don au 92 300 et vous donnerez 10 euros à la Fondation pour la recherche médicale.
92 300. Oui. Et on peut également envoyer des chèques.
Oui, sur frm.org. À la Fondation.
À la Fondation directement.
Dont l'adresse est sur Internet.
Et sur le site de la frm.org. Merci beaucoup, professeur Vianney Descroix, d'être venu. Merci beaucoup, professeur Violaine Smaïl-Faugeron. C'est votre première radio. Tout s'est bien passé.
Oui, tout à fait.
Merci, docteur Gérard Dupérin. Je conseille vraiment votre livre très pédagogique, « Toutes mes dents jusqu'à 102 ans, t'es sérieux ?» C'est publié au courrier du livre. Et vous êtes sur TikTok, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est Stomato in Life et Gérard Dupéra.
Oui, Stomato in Life. 1 million de personnes qui vous suivent sur TikTok.
Grand
bien vous fasse est un podcast France Inter.